Que Dieu soit béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, parle à nos cœurs. Enseigne-nous comment écouter. Il nous sera donné par rapport à notre manière d'écouter. Notre vie sera déterminée par notre manière d'écouter, nos oreilles. Seigneur, amen. Merci pour vos prières. Nous avons eu vraiment une convention incroyable la semaine dernière. Vraiment. Julius Thompson et le groupe de musique sont partis ce soir. Ils auront un concert encore. Ils ont eu à Glainsboro, ils ont eu un concert hier soir, avant-hier soir. Ils ont eu plusieurs concerts. Ils sont en Caroline du Sud. Ils sont dans une mission maintenant. Priez pour ce groupe de musique. Ce soir, je pars en Finlande et je vais être là-bas pour une semaine. Et j'apprécie vos prières. Merci pour votre amour. Merci pour le peuple de Dieu, son travail tout autour du monde. Et on sort du Covid mondialement, on dirait. Enfin, qui sait. Et puis, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de notre pays. C'est le jour de l'indépendance aujourd'hui. C'est un gros truc. Nous aimons notre pays. Nous aimons tellement de choses dans notre pays. On est reconnaissant pour notre pays. On remercie Dieu de nous l'avoir donné, d'avoir pu vivre notre vie. Je lis un livre des modèles de Washington. Et c'est à propos de l'armée et comment Washington aimait ce groupe de soldats. Je connais un tout petit peu à ce sujet puisqu'ils se sont formés à Baltimore, mais ils avaient leur propre uniforme, leurs propres armes. Et ils étaient très critiqués sur la bataille de Brooklyn et Washington avait vu leur bataille, avait vu leur courage. Et c'était des gens du Maryland, là où est Baltimore. Et donc, nous avons notre constitution qui a été rendue indépendante en juillet 4, le 4 juillet, pardon. Et c'est notre anniversaire. Voilà. Donc Dieu a utilisé ce pays à cause du christianisme, à cause du message. Il y a eu un écrivain français, il y a peut-être deux générations en arrière, qui a regardé les États-Unis et qui disait pourquoi c'est un grand pays. Et il y a eu un temps, c'était vraiment un pays qui avait beaucoup d'influence. Et il a résumé en disant, je ne comprenais pas pourquoi l'Amérique ça travaillait si bien, elle allait si bien. C'est parce que les églises étaient en feu. Et c'est là qu'il a vu, qu'il a reconnu pourquoi nous étions un pays qui aime, un pays qui prend soin des autres, un pays qui prend soin de son prochain, qui prie pour ses dirigeants, qui vit une vie juste. Si nous perdons cela, on va perdre tout. Et on voit ces choses arriver. Donc maintenant, allons à notre message. Et on va parler du psaume 19 et on va aller verset par verset. Et je veux faire ressortir quelques points. Au verset 19, combien d'entre vous sentent que la vie devient de plus en plus compliquée? Il y a plus de gens au culte de 11h qu'au culte de 9h qui lèvent la main. Combien de gens ressentent que des choses qui se passent, vous n'avez plus de contrôle dessus? Combien ressentent que nous devrions avoir le contrôle sur certaines choses, mais c'est tellement facile de le perdre. C'est facile de perdre le jardin d'Éden. C'est facile de perdre un agneau, un fils, une pièce de monnaie. Combien d'entre vous avez perdu des choses? Mais les clés de ma voiture, j'ai perdu... qu'est-ce que vous avez perdu? J'ai perdu ma mémoire, j'ai perdu ma pensée, j'ai perdu... On en a des choses à dire. J'ai perdu le sens de l'humour. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu ma santé. J'ai perdu ma femme, mon mari, ma fille, mon chien, ma réputation. J'ai perdu l'intégrité de mon cœur. Il y a des choses que... On dirait que la vie est une question de perte aussi. Et j'aimerais enseigner ce soir, ce matin, quelque chose d'important. C'est un don de Dieu. D'où est-ce qu'on peut trouver la joie pour passer à travers la vie? Comment est-ce qu'on peut trouver la lumière? Où est-ce qu'on peut trouver des ressources permanentes qui ne changent pas? Où est-ce que nous pouvons aller pour trouver la vérité? Regardez sur l'écran là. Et je vais dessiner une personne dans un cercle. Voilà sa vie. Dans cette sphère, c'est sa vie. Il peut perdre dans son argent, une relation, sa santé, et tout ça, c'est à l'intérieur du cercle. Et c'est intérieur. Et pour dire ça d'une manière différente, je dirais, c'est être subjectif. Je parle de moi-même. Je parle de moi-même. À mon sujet, de mes expériences, ce qui m'arrive. Peut-être toutes les choses, les bonnes choses qui vous sont arrivées aussi, j'espère. Mais pas toujours, pas toujours. Donc, nous avons aussi une vie intérieure, une philosophie intérieure, mes pensées à propos de la vie, toujours à mon sujet, par rapport à moi-même, qui viennent de moi, à travers moi, à propos de moi. C'est très, très populaire aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui, c'est ça, quoi. À propos de nous, nous-mêmes. Mais ce qui est faible dans cette image, c'est que à l'extérieur de moi, il y a des références pour ma vie qui sont à l'extérieur aussi. Je pourrais dire quoi en parlant des choses extérieures? Je pourrais dire Dieu à l'extérieur de moi. C'est pas dans ce que je pense, mais j'aimerais savoir ce que Dieu pense. Quand je suis dans cette expérience, qu'est-ce que Dieu en pense? Je pense à ce petit garçon, il a son petit monde, il a un père. Et le père est à l'extérieur du petit garçon. Et le papa lui enseigne les choses, l'aime, prend soin de lui. Mais papa ou maman, ou mon enseignant à l'école, mon maître, est à l'extérieur de moi. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les règles? Comment je vis? Comment je gradue en sortant de l'école? Et ça, c'est un modèle. Et c'est choquant de voir combien de gens vivent sans avoir la référence pour la vie. mais la référence d'eux-mêmes seulement. Je sais, je vais trouver, je vais chercher, je vais poser des questions et je vais avoir une opinion et je vais me référer à tout, mais tout par moi-même. Et très souvent, c'est très subjectif. Donc, dans le psaume 19, ce psaume est à propos de ce qui est à l'extérieur de moi. Et ça commence par la création. Si vous regardez dans le psaume 19, au verset 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, ça parle de la création. Je vais aller doucement. Voici un rectangle qui montre le psaume 19 et au verset 14. Les sept premiers versets parlent de la création. Et la création nous parle. Ça nous parle. Qu'est-ce que ça nous dit? La création me montre l'intelligence, le cosmos, les planètes, la Terre, le Soleil. Qui a fait tout ça? Et nous avons ce point d'interrogation, qui l'a fait? Aujourd'hui, c'est comme ça. Qui a fait la création? Et nous répondons, c'est Dieu. C'est sa puissance. Il y a la puissance dans les vagues de la mer, dans la force du soleil. Le soleil brûle. Il nous brûle, il nous rend, il nous chauffe. Il y a de la puissance dans le soleil. Les grands animaux, les éclairs, le tonnerre, tout ce qui est en dessous, qu'on peut voir grâce au microscope aussi. Combien de sens ça a, comment ça s'est passé, comment ça a eu lieu. Et très souvent, vous pouvez voir, vous pouvez être en train de regarder les étoiles et l'Esprit de Dieu produit en nous l'adoration. Et peut-être ça vous est pas arrivé souvent, mais soudain vous vous retrouvez en train d'adorer, vraiment adorer Dieu, l'aimer, vous croyez en lui. Et ça peut être tellement fort pour 3 secondes ou 5. En général, c'est pas des minutes, mais parfois c'est vraiment court, mais c'est incroyable. Vous aimez, vous adorez Dieu. Et puis ce sentiment s'en va. Ça m'est arrivé, c'était comme ça et j'en voulais plus. Je désirais plus de ça et je retournais la nuit suivante au même endroit pour essayer de retrouver encore ça. Et puis non. Puis parfois ça revenait, mais d'autres fois non. Et je pouvais me dire, c'était Dieu. Je ne sais pas. Exactement, mais c'est comme tout à coup le cœur crie après quelque chose qui est à l'extérieur de moi-même et je cherche quelque chose qui est plus grand que moi. Parce que la création ne peut pas me dire le caractère de Dieu. Par cela, je peux dire, est-il gracieux? Est-il aimant? Est-ce qu'il est celui qui pardonne? Il doit être sage, mais comment je peux recevoir cette sagesse? Est-ce que je devrais l'avoir? Qu'est-ce que c'est? Donc si vous regardez sur l'écran, donc, dans ce rectangle, les sept premiers versets parlent de la création, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qui est nécessaire? C'est ce qui vient après, à partir du verset 8. C'est cela qui va être nécessaire, la loi de l'Éternel. Il y a 6 phrases pour la loi de l'Éternel et elles sont toutes différentes. La loi de l'Éternel est les témoignages de l'Éternel, les statuts de l'Éternel, les jugements de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel. Ils sont tous, c'est tous des mots qui se ressemblent et ils parlent de la même chose, mais c'est parlé, cela parle de la révélation spécifique de Dieu. La révélation spécifique de Dieu. Et la création parle de la révélation générale de Dieu. Dieu existe à travers sa création. On peut le voir, mais on ne peut pas le connaître vraiment. Mais on peut le connaître par cette Bible, par cette parole, la Bible. Il y a différents chrétiens dans le monde. Il y a le monde chrétien qui a la raison, des opinions, qui a la culture, qui a beaucoup de choses à dire, qui ont leur psychologie, qui ont leur science. Il y a beaucoup d'opinions, mais il y a aussi ceux qui ont la Bible. Les chrétiens qui lisent la Bible, il y en a d'autres qui lisent la Bible, c'est comme du carton dans leur bouche, ça ne veut pas dire grand-chose, ça leur signifie rien. La Bible ne leur parle pas. Mais il y a des chrétiens aussi qui ont la Bible sur leur piano ou dans leur librairie pendant des années et ne font rien avec. Et ils vont à l'église et il y a des chrétiens, et s'ils sont chrétiens, il y a des chrétiens et ils meurent de faim. Il meurt de faim. Donc, vous reprenez le cercle où il y a cette personne et elle vit dans l'intérieur, mais est-ce qu'elle sait ce qui se dit à l'extérieur de la part de Dieu? Est-ce que ce qu'elle connaît, elle l'a vraiment ou bien c'est faible? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Comment est-ce que je devrais vivre chacun de mes jours? Comment je dois vivre quand j'ai le cancer ou que j'ai le Covid ou que j'ai peur? Avez-vous noté quelque chose par rapport à la race humaine, par rapport au Covid? Moi, je suis étonnée, je suis choquée de voir comment les gens ont peur de mourir. Je suis choquée de voir comment les gens sont très rapides à réagir émotionnellement. Comment les gens même vont se suicider? Comment la vie est fragile? Comment les gens ont leur orientation subjective? Comment ils peuvent devenir faibles pendant la crise? Comment c'est difficile de vivre une vie comme ça? Ils disent, ma vie devient de plus en plus compliquée. Et les gens perdent le courage. Les gens s'attachent dans la peur, sous la pression. Ils se sentent insuffisants, incapables, pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce dont nous parlons ce matin, la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que peut faire la parole? De quoi elle parle? Donc, nous avons le monde qui l'a pas, qui ont beaucoup de choses à dire, puis il y a les chrétiens. Et on peut diviser la catégorie des chrétiens en deux. Il y a ceux qui n'ont pas la parole enseignée à eux. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas l'enseignement à l'Église. Ils s'y réfèrent, mais ils ne l'ont pas vraiment. Et puis il y a ceux qui ont trouvé la parole comme du miel dans leur bouche. Ils la mâchent. Ils la trouvent douce, comme quelque chose de délicieux, quelque chose qui leur donne la clarté de l'esprit, quelque chose qui les dirige, qui les conduit, qui les protège dans la vie. Donc ces versets nous enseignent cela. Allons au texte, au verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. La loi qui veut dire une instruction divine qui revient, qui tient compte d'un credo, qui parle de la conduite. La loi a rapport avec la conduite, la doctrine, le caractère, ce que je crois. La Bible est tellement pleine d'illustrations, d'enseignements, d'exemples, d'histoires, de psaumes, de doctrines, de poèmes. Elle est la parole dont Jésus a dit « L'homme doit en vivre. Il ne doit pas vivre seulement de pain, mais il doit vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. » Et le mot pur, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La loi est parfaite. Ce mot parfait s'oppose à incomplet. Elle est compréhensive. La Bible, elle est complètement suffisante. Elle parle de quelque chose de tellement complet qu'il couvre tous les abcès, les aspects de tout ce qui existe. Elle est compréhensive et complètement suffisante. Ça me parle beaucoup. Parce que beaucoup de gens viennent avec des problèmes émotionnels. Beaucoup de gens vivent la vie, ils ont un cœur brisé. Ils font face à des déficiences, à des problèmes. Mais ici, on voit que ce livre est suffisant. Il n'y a rien qui lui manque. Par rapport à ce livre, il n'y a rien qui lui manque et par rapport à ce qu'il peut faire. Et qu'est-ce qui est dit au verset 8 ? Elle restaure l'âme. En anglais, elle convertit l'âme. Et je fais ce petit dessin là que j'avais fait il y a quelques années en arrière. Donc, je dessine un petit rectangle et voilà la personne. Et maintenant, je dessine un cercle. Et maintenant, elle est convertie en un cercle. Ça veut dire qu'elle était un rectangle, maintenant elle est un cercle. Et c'est la conversion. Elle est devenue une semence incorruptible. Elle est née de l'esprit. Elle a reçu la nature de Christ. Elle est changée. Non. Oui, je dis que oui, elle est née de Dieu. Elle est née de Dieu. Vous êtes née de Dieu. Des fois, quand je vais surfer, et j'y allais il y a des années en arrière à Gunpowder, et je parlais avec un ami qui disait « Mon Dieu est dans l'eau, sur l'eau, c'est là où je rencontre Dieu. » J'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris, mais c'est pas suffisant. L'eau ne peut pas te convertir, changer ton âme. Le soleil, les étoiles, les palmiers, les grandes et bonnes expériences et tout ce qui se passe, qui est bon, ne peut pas convertir ton âme. C'est la parole seule qui peut le faire. Jésus est la parole qui est devenue la chair et qui a habité au milieu de nous. Cette parole, elle est là dans nos mains. Elle est là dans nos mains. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance, c'est le caractère, la nature de Dieu en nous, comme une personne. La nature ne peut pas le faire. L'université ne peut pas faire ça. Un film ne peut pas faire ça. Dans les malls, vous avez le théâtre, vous avez les spectacles à l'extérieur, vous avez des circonstances, vous avez une famille, vous avez la naissance d'un enfant. Il y a tellement de choses qui se passent dans la, pour nous. Mais je ne peux pas trouver cet élément qui pourrait changer ma vie pour que je puisse sortir de moi-même et devenir un adorateur, un vrai adorateur de Dieu, avec la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe vraiment avec la parole. Au verset 8, elle restaure l'âme. Le témoignage, c'est la même chose que la loi, mais le témoignage de l'Éternel est véritable, il est sûr. Le mot « véritable » veut dire « ne peut pas faire d'erreur », il est inchangeable et on peut s'appuyer dessus, il est fiable. C'est le mot pour le témoignage. Il rend sage l'ignorant. Donc, dans mon petit dessin, je rajoute maintenant un cercle qui a un chapeau de gradué, un chapeau noir, vous savez. Et donc, de ce rectangle, je suis passée au cercle, et maintenant, ce cercle a un chapeau. Ça veut dire que je peux être simple, mais... Le mot simple, l'ignorant, le mot simple c'est ignorant, et ignorant ça veut dire que j'ai une porte ouverte dans l'intelligence. Et est-ce que vous avez entendu les gens dire j'ai une pensée qui est ouverte aux choses, ou bien il y a des gens qui disent, il y en a qui ont une porte ouverte mais qui sont incapables de garder quelque chose à l'intérieur, incapable de garder quelque chose pour eux-mêmes, incapable. Comment je peux garder la parole dans un cœur qui n'a pas de porte, qui est ouvert à tout? Mais j'adore Dieu, j'adore, il est la parole de Dieu, et cela me rend sage. Et c'est comme cela que je peux fermer la porte. Je ferme la porte sur ce qui est mauvais, je ne vais pas là. Certains de mes frères en France un ami s'occupait de ses clients, et les clients lui disaient « bois avec moi ». Et il disait « moi je bois pas ». Et il disait, allez, quand même, tu peux boire avec moi. Il disait, non, je ne bois pas. Est-ce que tu me fais confiance pour ton argent? Si j'ai pris cette décision avec moi-même de ne pas boire, et si je me croirais-tu vraiment, si je ne vivais pas dans l'intégrité de mon cœur, est-ce que tu pourrais quand même me faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance avec ton argent? Ça fait du sens d'être intègre avec soi-même. On a du respect pour ceux qui ont quelque chose à l'extérieur de eux-mêmes. Ça nous est révélé par la parole. Ce n'est pas nous qui avons écrit ça, c'est Dieu qui l'a écrit. Et il nous l'a annoncé. Et nous vivons maintenant de cette parole. C'est venu à l'extérieur de moi. Ce n'est pas mon opinion. On n'en a rien à faire des opinions, de mes opinions ou de celles des autres. Mais nous voulons trouver, nous voulons connaître le Créateur de l'univers, celui qui nous parle et qui fait ces choses pour nous, qui nous transforme, qui prend un homme simple, ignorant, et qui le transforme en un homme sage. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de plus simple que moi. Avant, j'ai tellement fait de choses stupides dans ma vie, avant. Et la manière dont je vivais, mais quelque chose s'est passé. Vous et moi, on a été des étudiants de la parole, et ça nous a rendus sages. Où est-ce que tu l'as eu, cette sagesse? C'est pas venu de moi, c'est venu de l'extérieur de moi. Et comment as-tu vécu et fait des décisions, non pas de ta manière, mais de sa manière? C'est par sa parole. Regardez au verset, le verset, les témoignages de l'Éternel est véritable et il rend sage le simple, l'ignorant. Il le rend sage, il fait de lui un homme fiable, qui peut construire sa maison et ça se passe, il devient sage, il discerne, il reconnaît les choses et il peut fermer la porte sur ce qui est mauvais, il peut ouvrir la porte pour les bonnes choses et fermer la porte sur les mauvaises choses. Il est sage. Il peut aller à l'église et écouter et recevoir, et c'est ce qui le change. Et au verset 9, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Le mot ordonnance en anglais, c'est statut. Les ordonnances de l'Éternel. Et cela veut dire, le mot ordonnance, des protections. C'est un mot hébreu qui parle des préceptes, qui un chemin droit. On n'est pas en train de errer dans les opinions humaines. Et entre parenthèses, aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Ils errent dans des opinions, dans un brouillard d'opinions humaines. Et nous avons un vrai chemin qui nous fait nous réjouir. Et voilà le prochain petit dessin que j'ajoute à ces cercles. Et maintenant, on lui met un chapeau de gradué, mais on lui fait un sourire aussi. On lui dessine un sourire parce qu'il a la joie. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il a été changé, il est gradué, mais il a aussi un grand sourire. Pourquoi as-tu la paix? Je suis le bon chemin. J'ai un sens de ce que c'est le chemin. Est-ce que vous ressentez en tant qu'adorateur que vous êtes sur le bon chemin? Oui, dans ma tête c'est tellement clair. Dans ma tête, je suis OK. Quand nous avons eu la pandémie, nous sommes tous demandé comment ça allait terminer, comment ça allait, et nous étions concernés, bien sûr. Mais en même temps, avez-vous la paix dans votre cœur? Avez-vous un sens du vrai chemin à suivre? D'où est-ce que c'est venu? C'est venu d'une bonne diète de la parole, d'un bon régime de la parole, d'apprendre les biographies, les proverbes, la science. J'ai pu mettre toute ma pensée dans la parole, dans ce qui est dit là, et adorer. Et donc, cette relation avec Dieu me donne la sagesse. La création, elle a un rôle à jouer, c'est vrai, mais elle ne peut pas être spécifiquement ce qui garde et corrige mon cœur. Ce n'est pas la parole, mais voilà la parole. Voilà ce que Jésus a dit, l'homme doit en vivre, il doit vivre. Cette parole va nous rendre sages, elle va nous réjouir notre cœur, elle va nous donner la stabilité. Disons que je reçois une mauvaise nouvelle de mon patron et il me dit je vais devoir te laisser partir. Et vous perdez votre travail et il va y avoir un état dans votre cœur particulier, des émotions, mais peut-être quelque chose qui va venir de l'extérieur, une paix qui va venir quand même de l'extérieur parce que vous êtes un adorateur. Et peut-être votre famille, elle, va être en souci, elle va être en colère, elle va... Et il va dire, oh, c'est une épreuve pour toi. Et moi, je vais dire... Oui, c'est vrai que normalement, c'est une épreuve, mais je suis un régime. J'ai écouté, j'ai embrassé des mots qui m'ont donné une ancre dans la vie et qui m'ont ancré en dehors de moi-même, c'est Dieu. Ah oui, 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 nous croyons en Dieu, mais tu ne sais pas que... Et je vais leur dire, non, je crois en Dieu, mais c'est ma vie. C'est ma vie. Ça, c'est entendre de Dieu. Chaque jour, d'un jour à l'autre, c'est apprendre à lire un passage et le méditer. Et je prends un verset. Et c'est comme je lis un autre verset et puis encore je reçois une autre pension un autre jour. Et puis ça me réconforte et puis ça m'aide à me réjouir. Et puis maintenant je sens que je marche sur un chemin qui est bon avec le Dieu vivant. Et j'ai communion avec lui. Est-ce que vous pourriez mettre sur l'écran Habacuc 2.4 sur l'écran, s'il vous plaît. 2.4. Habacuc 2.4. Son âme s'élève. Son âme s'élève, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Dans Habacuc 2.4, son âme s'élève. Son âme n'est pas juste en lui, mais le juste doit vivre par la foi. Son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais pour le rendre simple, quand je suis orgueilleux, mon âme n'est pas droite en moi. Quand mon âme s'enfle, quand mon âme est orgueilleuse, quand mon âme n'est pas droite, ça veut dire que ma vie n'est pas perpendiculaire. Elle a un côté de travers et mon âme est orgueilleuse. Je suis en colère. Mon âme est blessée. Et quand je suis au fond de moi un mauvais homme, et je pourrais être enflé trop ou pas orgueilleux tellement que mon âme n'est plus droite. Mais je peux vivre, regardez la suite du verset. Le juste va vivre par la foi. Par la foi en Dieu. Et c'est ce qui va garder son âme correct. Et qu'est-ce qui va me garder du péché? Je vais répondre, je vais me laisser diriger par Dieu. Je suis d'accord avec lui par la foi. Dieu, j'accepte ce que tu dis, j'ai péché et tu as raison et j'ai tort. Et je te crois. Et maintenant Dieu dit, tu es juste. Tu es d'accord avec moi. Tu l'as compris. Et nous avons communion ensemble. Les chrétiens qui ont la pensée divine qui leur est révélée et qui l'acceptent parce qu'ils sont humbles, ces gens-là ont trouvé ce dont nous parlons ce matin. Ils ont trouvé la joie. Ils ont trouvé le chemin. Ils savent comment fermer la porte sur ce qui est mauvais et l'ouvrir sur ce qui est bon. Ils savent fermer la porte quand il faut. Ils peuvent fermer un programme de pornographie. Et ils vont fermer la porte dessus. Et ils vont dire, je peux dire, ils peuvent dire à ce moment-là, Dieu, j'ai peur de moi-même, j'ai confiance en toi. Tu peux le faire, Seigneur, enlève cette chose de moi. Et maintenant, Dieu dit, tu es un homme juste, je vais t'aider. Et vous croyez que ce Dieu-là est ce genre de Dieu. L'océan ne pouvait pas m'en parler, mais ta Bible, ta parole m'en parle. Tu es un Dieu saint et je te crois, tu es un Dieu saint. Et je voudrais être saint comme toi. Et le Seigneur dit, si tu me crois, si tu me fais confiance par la foi, alors maintenant tu es justifié aussi par la foi. Tu es juste. Tu es un homme juste. Et c'est quoi cette manière de vivre? La vie devient simple. Regardez au verset, au verset 8. Le commandement de l'Éternel est pur. Pur, ça veut dire clair. Les commandements de l'Éternel sont faciles à comprendre. Ils ne sont pas négociables, ils sont purs. Beaucoup de choses à l'extérieur sont mélangées, le bon et le mauvais en même temps. Vous pouvez faire un contrat et tout en bas, des petites lignes que vous n'aviez pas vues. Ce n'est pas pur, ce n'est pas clair, mais la parole l'est. La parole de Dieu, elle l'est. Elle est pure. Qu'est-ce qu'elle fait? Au verset 9, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et puis maintenant, il rajoute encore un petit dessin en plus d'un grand sourire et d'un chapeau de quelqu'un qui a l'intelligence. Il lui dessine des grands yeux parce qu'il peut voir clair. Est-ce que maintenant vous comprenez, après des années dans la parole, que vous comprenez les choses mieux qu'avant? Oui, maintenant je comprends mieux. Avant, je pensais, mais maintenant, je vois des choses que je n'avais jamais vues. Waouh! Aujourd'hui, je vois ce que Dieu voulait me dire depuis le début. Il a illuminé mes yeux. Avez-vous rencontré un nouveau croyant qui dit, deux semaines après, il dit, ouais, j'en reviens pas que je suis sauvé, je suis pardonné, je suis tellement excité, enthousiaste, je ne peux pas le croire, quelle nouvelle vie Dieu me donne. Ce nouveau converti est tellement étonné, je suis tellement heureux, il est là. Et vous, qui êtes chrétien depuis 40 ans, vous le regardez et vous vous endormez quand vous écoutez la parole et vous le regardez. Et cet homme est tellement choqué de la réalité de la conversion. Et beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas endormis, mais nous disons, c'est vrai, amen, c'est magnifique. Et ça va devenir de plus en plus incroyable au fil du temps. Regardez au verset 10 maintenant. La crainte de l'Éternel est pure, elle est propre. Et la crainte de l'Éternel, c'est un autre mot pour la parole de Dieu. Et c'est une implication qui veut dire, regardez cela. Quand vous avez la parole qui n'est pas comme du carton dans vos mains, vous la lisez. Des fois, ça arrive qu'on ne comprend pas ce qu'on lit. Mettez-vous en prière quand c'est comme ça. Priez quand vous ne comprenez pas. Que la crainte de Dieu puisse venir dans votre cœur et que vous soyez en train de la lire vraiment et que vous puissiez avoir la crainte de Dieu dans votre cœur. Le respect de Dieu. C'est le mot de crainte là. C'est le mot respect. C'est un respect incroyable. C'est comme le train vient à 8h05. Donc soyez sûr d'avoir le respect, d'avoir libéré la voie. Soyez respectueux de ce train qui arrive. Soyez respectueux des choses à faire pour ne pas aller à... La crainte de Dieu, c'est le respect du Dieu Tout-Puissant. Et la crainte de l'Éternel est pure. Elle est pure. Et le mot pur, propre en anglais, elle est sans corruption, sans erreur. Le mot hébreu est tabor, qui veut dire sans impureté, sans être sali ou sans imperfection. C'est quand même incroyable que je lis un livre qui n'a pas d'impureté, qui n'est pas d'erreur, qui n'a rien à corriger dans ce livre, c'est la parole de Dieu. placer la parole de Dieu sur mes genoux, sur ma table. Je peux y croire, venir à l'église, l'ouvrir et faire attention à ce qui est écrit dans ce livre. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que ça produit? Et cette parole, il est dit, elle subsiste à toujours. Avez-vous un téléphone? Et puis, vous vous rendez compte qu'il y a... on vous demande de faire une update. Et pourquoi? Et on me demande de faire un update, un réglage. Et moi, j'en ai pas envie. J'ai pas envie qu'on me fasse des réglages sur mon téléphone. Parce que, voilà, parce que je suis une personne assez simple dans ce domaine. C'est peut-être pour ça. Mais je veux dire quelque chose sur le sujet. Il y a des gens qui voudraient changer, qui veulent changer tout, qui... Est-ce qu'on peut pas, on pourrait pas faire la chose bien du premier coup? Et Dieu nous dit, est-ce que Dieu pourrait pas juste nous dire que sa parole dure pour toujours? Et c'est le cas, c'est le cas. Et il sera le même, éternellement, pour toujours, le même. Quand il dit « Je te pardonne de tes péchés », il le dit pour toujours. Il m'a pardonné. Quand nous disons que nous sommes ressuscités des morts et qu'il n'y a pas de changement à faire, c'est fait, c'est établi pour toujours. Regardez le verset suivant. Au verset... Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Où est-ce que nous allons trouver le salut, l'habileté de vivre une bonne vie, de trouver la joie de passer au travers des épreuves? C'est en Jésus-Christ. Et d'une manière pratique, quand je suis sur mes genoux et que je commence à lire ce livre et que j'ai un enseignant qui me l'enseigne, et que nous avons nos frères et sœurs dans l'Église, et que nous avons l'obéissance, et que nous avons la conscience de Dieu. Et je vais dire ceci, c'est tellement bon, ils sont plus précieux que l'or. Et vous vous souvenez de cette recherche de l'or dans les années 1840? 300 000 personnes sont parties. Ils sont partis aussi vite qu'ils ont pu aller en Californie pour se faire une fortune. Des milliers de personnes ont aimé l'or. Ils ont aimé l'or. Et dites à votre voisin, ils ont aimé l'or. Mais vous, vous n'aimez pas. Si, oui, ils ont aimé l'or. Si je pouvais m'attacher à la parole de plus en plus, si je devais aller en... Un jour, j'ai demandé à un mormon, j'ai une question. Si tu allais en prison, si tu avais le choix de prendre un livre, lequel prendrais-tu? Il a dit, je choisirais entre la Bible et le livre des Mormons, je choisirais le livre des Mormons. Et il dit, il y a une différence entre toi et moi. Je crois à la Bible. Je crois que la Bible est la parole. Et je voulais l'aider, mais je voulais lui montrer qu'il y a un seul livre sur terre. Et ce livre, plus que n'importe quoi, plus que l'or, plus que mon repas, plus que mes choses qui me conviennent, plus que ma propre vie, je le veux, je veux le cacher dans mon cœur. Comment? En mettant ce livre dans mon cœur. La semaine dernière, on a eu un temps en famille. On était ensemble. Et j'étais en larmes parce qu'on a eu la parole de Dieu au milieu de nous. Comment une famille peut rester ensemble? C'est la parole, c'est la crainte de l'Éternel. C'est lui faire confiance. Ça n'arrive pas toujours, bien sûr, on a notre libre arbitre, on a notre propre volonté. Et on a notre vie intérieure qui se passe à l'intérieur de nous et à l'intérieur de la famille. Il y a des sentiments, il y a toutes sortes de choses. Et parfois, ça ne va pas. Mais si on regardait à l'extérieur de nous tous, à l'extérieur, on trouverait Dieu, on trouverait la vie, la joie, la paix, la sagesse, la science, le silence, la sainteté, la présence de Dieu. C'est ce qui se passe dans l'Église et on en bénéficie. Donc quand la crise vient avec le Covid, voilà, on va bien. Daniel avait dans l'histoire de Daniel, le roi avait dit « Tous les sages du pays doivent être tués parce que personne ne pouvait interpréter son rêve. » Et Daniel était comme ça. Il était cet homme sage. Il avait Dieu. Il était un homme sage qui était capable de calmer les choses. Et il se tient devant celui qui doit l'exécuter. Pourquoi est-ce qu'il veut tuer tous les hommes sages? Parce que vous ne pouvez pas interpréter le rêve. Et il dit, est-ce qu'on peut s'asseoir ensemble et causer? Daniel a 19 ans. Qu'est-ce qu'il a à l'intérieur? Il est calme. Il a autorité dans son cœur. Dieu est avec lui. Il est sage. Est-ce que tu penses, dis-moi, est-ce que je pourrais parler au roi? Et on lui répondit, « Oh, le roi est en colère. »« Oh, c'est pas grave, je pense que je peux lui parler. Permettez-moi de lui parler. » Et l'autre lui dit, « Ok, je vais voir si je peux arranger un rendez-vous. » Et il y a ce roi maniaque qui est prêt à éliminer tout le monde. Et Daniel lui dit, « J'aimerais te parler, j'aimerais te dire quelque chose. Je peux interpréter ton rêve, mais c'est pas en moi ce rêve. Dieu peut interpréter tous les rêves. Je le connais. Il est Dieu. Et il peut me le montrer. » Vous voyez, il y a quelque chose entre vous et moi. Quelque chose dont le monde a besoin. Et je ne l'ai pas. À moins que vous le trouviez dans ce livre. Quand vous prenez le temps, et vous avez des amis avec qui en parler, peut-être une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes par jour, et vous, ça va tourner en 20 minutes bientôt, et en une heure peut-être, et il rentre dans votre pensée, dans votre cœur, il fait partie de vous. Bon, bien sûr, vous voyez un médecin, mais il y a des gens qui vont vers leur médecin tout de suite, pour avoir de l'aide, mais nous n'avons pas besoin d'être drogués, nous avons surtout besoin de parler à Dieu de nos problèmes, de nos maladies, et comment il peut nous instruire, et comment il va nous rendre sages, et nous montrer quoi faire dans toutes nos situations, et dans des situations compliquées, parce que c'est comme cela que ça se passe avec Dieu. On apprend à vivre. On apprend à vivre la vie. Et on devient capable. Avec lui. Amen. Les Écritures disent, vous devez être né de nouveau. C'est comme cela que ça commence, par une nouvelle naissance. Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3, tu dois naître de nouveau si tu veux entrer dans le ciel. Tu dois croire en Jésus, tu dois naître de nouveau. Dites à Jésus, deviens mon sauveur, deviens celui qui m'enseigne par ta grâce. Tu as pris mes péchés à la croix et tu m'appelles par ton nom et je veux te croire, je veux te suivre, je veux apprendre de toi, j'ai besoin de toi. Dites cette prière, on se sent tous indignes, mais commencez une nouvelle vie. Croyez en lui. Ce n'est pas vous qui pouvez vous sauver, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui le fait en vous. Il vous pardonne. Dites-lui, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et si quelqu'un a fait cette prière, levez votre main, on va vous donner un petit livret. Il y a ici tous les mardis soirs une soirée pour tous ceux qui veulent en apprendre plus. On vous donnera une Bible et vous pourrez apprendre à marcher par la foi. Amen.